RCF. Bonjour à toutes et à tous. Ce dimanche, le Salon de l'Agriculture va fermer pour la 60e fois ses portes. Rendez-vous incontournable qui rassemble la France agricole dans toute sa diversité, qui a commencé dans un affrontement dur avec le président de la République venu inaugurer ce rendez-vous annuel tant apprécié des Français. Et en préparant cette émission, je me suis souvenu de la pensée d'un homme que vous ne connaissez peut-être pas et dont le nom vous dira peut-être pas grand-chose. Il s'agit de Gustave Thibon, philosophe, chrétien, paysan, témoin d'un monde rural en mutation. Il est mort en 2001 et il n'avait de cesse de rappeler l'importance de l'enracinement, de l'humilité que nous devons avoir face à la nature et de l'espérance que nous devons porter même dans les temps les plus sombres, rappelant ainsi que le travail de la terre est d'abord et avant tout un acte d'amour et de foi. Alors nombre d'entre vous me diront que la foi, ce n'est pas ce qui fait vivre, mais peut-être est-ce celle qui donne envie, malgré les difficultés, de se lever chaque matin. Dans le monde de l'entreprise, on appellerait cela la raison d'être, le sens au travail. Anarchiste conservateur Gustave Thibon nous enseigne que la solution aux maux de notre temps ne réside pas uniquement dans la technologie ou dans l'accumulation des richesses, mais peut-être davantage dans une réconciliation avec les rythmes naturels, dans l'acceptation de nos limites et dans la redécouverte de la solidarité et de la fraternité qui unissaient les communautés rurales d'antan. La crise agricole française est multifacette, elle est à la fois économique, environnementale et sociétale. Les agriculteurs sont confrontés à des défis colossaux qui semblent parfois perdus face à l'ampleur des attentes et des contraintes. La pensée de Thibon prend alors toute sa mesure quand il dit avec sa lucidité de retourner à un maximum de mœurs et un minimum de lois. Alors que nous parcourrons les allées du Salon de l'Agriculture découvrant les innovations et célébrant les réussites, souvenons-nous peut-être de ces mots de Gustave Thibon, le véritable enjeu est de mourir vivant, de rester éveillé et conscient face aux défis tout en gardant foi dans l'avenir. C'est peut-être dans cette tension entre réalisme et espérance que se trouve la clé pour surmonter la crise agricole actuelle et de travailler ensemble pour un avenir où l'homme et la nature coexistent en harmonie. Bienvenue dans l'Écho des Solutions.
L'Écho des Solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Salon de l'Agriculture, dans l'Écho des Solutions, ou plutôt dans l'Écho des Solutions au Salon de l'Agriculture. On va essayer de vous faire vivre depuis cet endroit un moment immersif. On est parti à la rencontre de celles et ceux qui ont des solutions pour un monde agricole en crise. Vous le savez, aujourd'hui, il y a plusieurs revendications. Trois submergent dans tout cela. Tout d'abord, la question des revenus agricoles. En effet, aujourd'hui, nombre d'agriculteurs ont du mal à vivre, à sortir de l'argent pour faire vivre leur foyer, les obligeant parfois à trouver d'autres emplois plus alimentaires. Et on va voir avec eux quelles sont les solutions qui existent pour sortir de cette problématique de revenus, avec une annonce par le président de la République des fameux prix planchers. Est-ce que c'est la bonne solution? C'est ce qu'on va peut-être creuser au cours de nos échanges. On va parler aussi d'administratif, on va parler aussi de durabilité, comment aujourd'hui faire face à cette injonction à la fois de produire suffisamment tout en produisant durablement, un vrai paradoxe, et c'est ce qu'on va aller chercher au cœur de ce salon. On retrouvera bien évidemment notre chroniqueur préféré pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. On terminera cette émission avec les agriculteurs Ont du Cœur, une association justement qui vient aider l'agriculture et les agriculteurs quand ceux-ci peinent. C'est un peu l'agence touriste de l'agriculture. Et puis bien sûr, on ouvre notre émission avec notre invité écho de cette semaine. Il s'agit de Sébastien Windsor. Sébastien Windsor est le président national de la Chambre des agricultures. C'est aussi le président national de la Chambre d'agriculture de Normandie, qui est à l'honneur puisque c'est Oreillette qui est sur l'affiche du Salon de l'Agriculture et que c'est une vache normande. Allez, on ouvre tout de suite cette émission avec notre invité écho de cette semaine.
L'invité écho, Patrick Longchamp.
Écho, on est sur le stand des chambres d'agriculture au Salon de l'agriculture à Paris qui bat son plein depuis dimanche, samedi dernier qui a été un petit peu chahuté. Je suis avec le président national des chambres d'agriculture, il s'appelle Sébastien Windsor. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, merci d'abord de nous recevoir sur votre stand. Peut-être rappeler rapidement à nos auditeurs, mais vraiment rapidement, quel est le rôle aujourd'hui des chambres d'agriculture sur le territoire et à quoi elles servent. Ce sont des chambres consulaires et c'est un peu l'équivalent des chambres de commerce et d'industrie.
Oui, avec quelques différences, mais en gros, le rôle des chambres, il est triple. Le premier, c'est celui d'accompagner les agriculteurs, de les conseiller, notamment du conseil technique, du conseil pour améliorer leur niveau de production, du conseil pour améliorer leurs revenus, du conseil aussi de temps en temps pour intégrer les réglementations. Et puis, après, un autre rôle qui est d'accompagner l'État dans un certain nombre de prises de décision.
Et puis enfin,
un travail régulier avec les collectivités. Par exemple, on donne des avis sur les PLU, la construction pour préserver les enjeux et les terres agricoles. Voilà.
Donc une question, une réponse, c'est ça un petit peu le principe. Je suis agriculteur, j'ai une question, je me tourne vers ma chambre d'agriculture et j'ai la réponse ou l'accompagnement nécessaire.
Oui, alors j'ai la réponse, mais j'ai surtout l'accompagnement parce que on accompagne quasiment un agriculteur sur deux tous les ans par de la formation, par des groupes de développement où les agriculteurs peuvent se retrouver entre eux, échanger sur leurs pratiques, être conseillés par un technicien. C'est un peu plus que je pose une question, c'est je me fais accompagner par ma chambre d'agriculture.
Alors je le disais à l'instant, le salon de l'agriculture a été chahuté au début. On a vu ces grèves des agriculteurs, cette colère du monde agricole. Comment elles interviennent? Quel est le regard des chambres d'agriculture?
Alors moi, si vous voulez que je réponde à votre question, peut-être qu'il faut rentrer dans l'analyse de pourquoi la colère des agriculteurs. La colère des agriculteurs, elle est motivée, je pense, par plusieurs choses. D'abord, dans le sud-ouest, là où ça a démarré, tout le sud de la France est très touché par le changement climatique. Dans le sud-est, une habitude ancestrale d'irrigation, mais dans le sud-ouest, pas cette irrigation. Mmh. Et des agriculteurs qui ont passé 3-4 années successives avec des rendements catastrophiques à cause de la sécheresse. Une déconnexion entre ce qu'on a demandé de faire aux agriculteurs, à qui on a demandé de monter en qualité, et donc de produire plutôt des produits plus chers. Et puis, depuis le début de l'inflation, un consommateur qui a fait l'inverse, il a baissé de quasiment 15% son budget alimentaire, puisque c'est là-dessus que s'est fait l'arbitrage. Et donc, comme il ne mange pas 15% de moins, il est allé chercher des produits moins chers, souvent des produits d'importation, alors que l'agriculteur avait fait un effort de monter en gamme. Et donc, l'agriculteur, il était un peu en désarroi. Mmh. Et alors, le sud-ouest touché, beaucoup de filières bio. Et dans ces filières bio, beaucoup d'agriculteurs qui ne trouvent même plus de débouchés pour leurs produits ou qui voient leurs produits vendus au même prix que le conventionnel. Et puis, troisième raison, qui est probablement des éléments des agriculteurs qui ont subi, les unes derrière les autres, des arrivées de normes et qui ont passé ces 5-6 dernières années à s'adapter à ces normes qui leur tombaient dessus, des contraintes autour des nitrates, des contraintes sur les phytos, des contraintes sur la biodiversité, etc. Ils ont un peu l'impression d'avoir subi et de ne plus avoir de projet. Et c'est là peut-être, du coup, quel rôle les chambres d'agriculture doivent jouer. D'abord, sur le sujet du changement climatique, on est en train de bâtir un accompagnement au changement climatique. On est en train de le tester chez 1000 agriculteurs, de former nos conseillers. À date, ce qu'on a quand même fait, c'est mesurer l'impact du changement climatique sur les exploitations si on ne change rien. Et ce qu'on est en train de démarrer, c'est un conseil pour s'adapter au changement climatique. Mais ce qui n'est pas simple, qui relève souvent de plusieurs changements nécessaires en même temps sur l'exploitation. Ça, c'est pour le changement climatique. Deuxième sujet, l'avalanche de contraintes. Là, il y a un besoin de simplification. Et l'autre élément qu'on doit pousser, nous chambres, c'est de dire, plutôt que d'avoir un budget qui nous est confié par l'État pour accompagner sur les phytos, un pour accompagner sur la biodiv, un pour accompagner sur la plantation de haies, mettons tout ça dans une enveloppe globale. Pas besoin de plus d'argent, mais il y a à peu près 60 millions pour tous ces conseils. On met ça dans une enveloppe globale et on reprend le conseil des agriculteurs, mais non plus sur « je m'adapte à la réglementation », mais c'est quoi le projet sur mon exploitation? Et donc là, on va conseiller l'agriculteur, l'accompagner dans un projet qui va amener du développement, qui va créer de la richesse sur son exploitation. Et on regardera l'impact sur la biodiversité ou les phytos. Mais on va commencer par emmener chez l'agriculteur un projet qui va créer de la valeur, qui va lui permettre de retrouver des projets et de se développer. Et quelque part, si je regarde un peu les chiffres, en poulet par exemple, on est passé en 20 ans de 800 000 tonnes d'export à une situation aujourd'hui où on importe 400 000 tonnes de poulets tous les ans en France. Et bien, si on regarde que le sujet biodiversité, phyto, etc., l'agriculteur, il va s'ajuster. Le vrai sujet, c'est est-ce que l'agriculteur, il a un projet pour recréer un poulailler, pour que ce poulailler, il fournisse des produits, y compris des produits d'entrée de gamme qu'on ne fait plus en France. Et est-ce qu'il peut refaire ses produits? En refaisant ses produits, il va retrouver de la valeur sur son exploitation, ce qui va lui donner du sens. Il va nourrir ses compatriotes. Et puis, en plus de ça, ben, le fait d'avoir des effluents d'élevage, des fumiers liés à la volaille, va lui permettre de nourrir son sol sans engrais chimiques et donc améliorera l'environnement. Mais l'enjeu, c'est de bien reprendre des projets et d'accompagner des projets chez l'agriculteur.
Alors justement, les élections européennes arrivent. On sait combien la législation européenne peut impacter. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des enjeux pour les agriculteurs sur ces élections européennes à venir? Est-ce qu'il faut refondre la PAC ou est-ce qu'il faut quasiment repenser la totalité de l'action européenne sur l'agriculture en Europe?
Alors, je pense que le sujet n'est pas tellement la politique agricole commune, mais l'ensemble des directives, l'ensemble des sujets sur lesquels l'Europe vient imposer des normes aux agriculteurs français. Et l'enjeu pour les agriculteurs français, c'est pas de se séparer de l'Europe, parce que ce serait dramatique d'un point de vue marché pour nous, puisque une partie de nos produits sont exportés et principalement en Europe. La stabilité monétaire aussi que l'Europe nous a amené est absolument essentielle pour les producteurs agricoles. Donc l'Europe a du sens pour le monde agricole. Le sujet, c'est que l'Europe ne soit pas une Europe qui dicte des normes à ses agriculteurs sans en plus être capable de les protéger. Et qu'on nous impose pas demain des œufs plein air, mais qu'on autorise l'importation de cages, ou qu'on nous interdise pas certains produits phytosanitaires sur les cerises, et qu'on laisse rentrer des cerises qui ont été traitées avec ces produits phytosanitaires.
Et donc c'est une cohérence, en fait.
C'est vraiment ce qu'on demande, c'est surtout pas de se séparer de l'Europe, mais c'est que l'Europe, dans sa politique agricole commune, soit en capacité de protéger ses agriculteurs. Et quand elle met des contraintes à des agriculteurs, déjà qu'elle essaye de faire fonctionner autrement que systématiquement en mettant des contraintes, et quand elle en met, qu'elle fasse attention de ne pas exposer l'agriculteur encore plus à des produits d'importation qui ne respectent pas les règles, mais qu'au contraire, elle protège les agriculteurs français face à ces importations.
Alors, le gouvernement français a fait quelques annonces pour répondre à cette colère. Il y en a un en particulier, il y en a deux, mais il y en a un en particulier qui est intéressant, c'est la notion de prix plancher. On parlait d'Europe. La notion de prix plancher, en soi, c'est peut-être pas une mauvaise idée pour garantir le revenu des agriculteurs. Au demeurant, on parlait d'export juste à l'instant. Ça veut dire aussi avoir une cohérence pour ne pas casser justement l'exportation des produits alimentaires hors de nos frontières.
Vous savez, moi, je suis éleveur de porc. J'ai vécu dans ma carrière une fois les prix planchers en porc, où je crois que c'était en 2017 ou 2018, on m'a fixé un prix plancher. Déjà, tous les acheteurs se sont calés sur le prix plancher. Donc le prix plancher, il est aussi devenu en même temps le prix maximum. Et puis, un certain nombre d'acteurs de l'agroalimentaire ont pu, à ce moment-là, quand les prix planchers étaient plus élevés en France, soit arrêter d'exporter, soit acheter du porc à l'étranger pour rester compétitif, parce qu'à un moment, ils ne pouvaient pas acheter le porc plus cher que leurs compétiteurs. Et donc, je me suis retrouvé dans une situation où les porcs ne partaient plus de mon exploitation, et ça, c'est beaucoup plus dramatique, et c'est catastrophique à moyen terme. Donc, je ne suis pas complètement convaincu que, en tout cas, la France, elle ne pourra pas appliquer toute seule cette notion de prix plancher.
Certains d'ailleurs évoquent aussi pour les revenus des agriculteurs une forme de sécurité sociale et alimentaire. Est-ce que c'est une piste aujourd'hui d'aller sur cette dynamique?
Il y a eu un sujet qui a été porté à un moment qui était la TVA sociale, et donc faire en sorte que notre modèle social ne soit pas porté que par les produits français, mais y compris par les produits d'importation. Ça, c'est un vrai sujet. En tout cas, un producteur de fraises avec beaucoup de main-d'œuvre qui paye cette main-d'œuvre plus cher en France qu'au Maroc. Et c'est utile parce que ça permet d'amener une protection sociale dont on bénéficie tous. Il y a un moment, on ne peut quand même pas le mettre en concurrence sur les prix avec un Marocain qui va faire des fraises et qui, lui, paye ses salariés beaucoup moins cher. Donc si on veut maintenir notre modèle social, je pense qu'il faut trouver une façon d'équilibrer, de faire porter ce modèle social, pas que sur les produits français, mais aussi sur les produits d'importation.
Alors, les chambres d'agriculture fêtent cette année leurs 100 ans. C'est quand même énorme, 100 ans. C'est quoi votre vision pour les 100 ans à venir, Sébastien Windsor? Qu'est-ce qu'il faut dans les mois, dans les années qui viennent? C'est quoi les grands enjeux aujourd'hui pour les chambres d'agriculture et pour l'agriculture en France?
Je pense que dans une situation où on doit décarboner, et donc
accompagner l'agriculture.
Ne plus produire, ne plus puiser dans l'énergie fossile. L'agriculture devra produire une partie de cette énergie, comme c'était le cas il y a 200 ans où les chevaux étaient nourris par l'agriculture. Donc, on doit se mettre à produire de l'énergie parce que demain, on doit décarboner. Donc, nouvelle production nécessaire. Deux, on doit regagner en souveraineté alimentaire là où on a perdu parce que sinon, on sera dans les mains de Poutine pour notre alimentation et c'est pas très sexy et c'est même plutôt un peu inquiétant. Et trois, on est touché par le réchauffement climatique qui a plutôt tendance à baisser nos productions. Donc voilà, il y a un vrai enjeu, c'est de produire plus pour retrouver notre capacité alimentaire, pour pouvoir décarboner en produisant des énergies qu'on ne puisera plus dans le pétrole. Et donc, on a besoin de développer la production en France, pas n'importe comment, en continuant à améliorer notre empreinte environnementale, mais comme l'agriculture le fait depuis 20 ans. Continuons des efforts, mais quelque part, en ouvrant toutes les contraintes, pour en faisant confiance à l'agriculteur, pour qu'il soit porteur de projet, qui lui permette de produire plus et ne plus opposer progrès environnemental et croissance. On doit être capable de retrouver de la croissance dans le monde agricole en même temps qu'améliorer notre empreinte environnementale.
Merci beaucoup Sébastien Windsor d'avoir été notre invité écho de cette semaine. On va commencer notre déambulation pour justement partir à la rencontre de ces acteurs et ces actrices du changement dans le monde de l'agriculture et répondre à ces questionnements justement de revenus, de durabilité, de rendement. Merci beaucoup Sébastien Windsor de nous avoir accordé un moment.
Merci à vous.
Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Nicolas Masson.
Et on retrouve donc Nicolas Masson depuis le Salon de l'Agriculture où nous sommes cette année, le Salon de l'Agriculture. Nicolas, d'ailleurs je vais vous saluer avant de me lancer dans votre chronique. Bonjour Nicolas.
Bonjour Patrick.
Alors cette année, la semaine du Salon Agricole a pris une couleur toute particulière avec la crise que l'on vient de traverser et que l'on traverse encore. Un monde qui vous tient particulièrement à cœur, Nicolas, pourquoi ?
Oui, Patrick, ce monde agricole m'est cher parce que tout simplement, j'en suis issu familialement. Et ce salon contribue à recréer un lien qui a été rompu entre le monde de la terre et notre société. On peut se rappeler qu'en 1950, un tiers des Français vivaient directement du travail de la terre. Et donc, cette crise nous touche tous. Elle est économique, elle est sociale. Et ses racines sont des injustices structurelles qui, et c'est peut-être ça qui est grave, d'année en année s'accentuent. Les mesures ont été annoncées, mais nous ne les discuterons pas ici, car leur complexité est telle que seuls les spécialistes comprennent. Et d'ailleurs, cette complication est sans doute en soi un problème. Ce qui m'intéresse, c'est que cette crise va au-delà du monde agricole. Il me semble qu'elle concerne toute l'économie et qu'elle est l'occasion de nous demander comment faire évoluer notre modèle économique que beaucoup disent à bout de souffle.
Alors évidemment, la question qu'on a envie de se poser, c'est comment est-ce que cela peut se faire, Nicolas ?
Alors, la pensée sociale chrétienne qui nous est si chère aux EDC, nous ouvre des pistes. Premièrement, les échanges sont déséquilibrés et l'absence de règles morales sont un peu comme mettre le renard libre dans un poulailler libre. Et si les plus gros ne sont pas placés en situation, dans la responsabilité de protéger les plus petits, ils ne respecteront pas leur dignité et finiront par les écraser. Deuxième point, on ne peut que s'interroger sur l'intérêt général, s'il permet et s'il autorise de sacrifier des personnes, en l'occurrence les éleveurs d'ovins, et leur mode de vie pour développer la richesse d'autres. Le bien commun, c'est, il me semble, tout autre chose. Troisième point, la complication des règles appelle la complication jusqu'à devenir complètement hors sol. Ce fut une des plus grandes revendications des agriculteurs. Or, la subsidiarité invite à revenir sur le terrain et à faire confiance. Troisième point, les fractures sociales se multiplient alors que nous devrions faire œuvre de solidarité, y compris dans les échanges économiques. J'aime beaucoup le propos de Nicolas Chabanne, fondateur de la marque C'est qui le patron ? On ne négocie pas avec les gens qui nous nourrissent.
Alors pensez-vous, quatre points, qui est de la doctrine sociale de l'Église, pensez-vous que cela soit à notre portée, à nous les acteurs publics, à nous les acteurs citoyens ?
C'est sûr que ce ne sera pas un chemin simple, parce que ça demande de changer vraiment en profondeur. Et Jean-Paul II, dans Centesimus Annus, nous rappelait que ces questions sociales ne peuvent se résoudre sans une transformation intellectuelle et spirituelle. Il écrivait « En dehors de la destruction irrationnelle du milieu naturel, il faut rappeler ici la destruction encore plus grave du milieu humain, à laquelle on est cependant loin d'accorder l'attention voulue. » Il continuait par « La nécessité » l'invitation à s'engager dans des conditions morales d'une écologie humaine. Sommes-nous prêts à cette transformation ? Quand je vois les journées paysannes qui se sont réunies à Paray-le-Monial récemment, quand je vois les entreprises des EDC, je dis ben oui, c'est possible. Et quand je pense aussi à tous ceux qui quittent leur costume de consommateur pour redevenir, pour se rapprocher des agriculteurs comme des frères, en se rappelant que ces mêmes agriculteurs, en les nourrissant, répondent à la parole du Christ, donnez-leur à manger.
Merci beaucoup Nicolas Masson. Une très belle introduction à cette déambulation que l'on va faire dans les couloirs, dans les allées du Salon de l'Agriculture, puisque on va reprendre ces trois grandes revendications qui sont le revenu, le trop de normes et d'administration et la question du rendement versus durabilité. Trois sujets qu'on va évoquer avec les invités que l'on va glaner dans les allées du salon. On va faire une pause musicale, une pause bucolique avec Trio, l'esprit de nos campagnes.
Je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les mâles vont faire la part des choses. Il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Pas de boulot,
pas de diplôme,
partout la même
odeur de zone. Plus rien n'agite tes neurones.
Pas même le shit que tu mets dans tes cônes. Va voir ailleurs,
rien ne te retient.
Va vite
faire quelque chose de tes mains.
Ne te retourne pas
ici, tu n'as rien.
Et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi
près d'une rivière,
écoute le coulis de l'eau
sur la terre. Dis-toi qu'au bout il y a la mer,
et que ça n'a rien d'éphémère.
Tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi, comme celui qui vient. Que le liquide qui coule dans tes mains
te servira à vivre jusqu'à demain matin.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi près d'un vieux chêne et qu'on parle à la race humaine.
L'esprit de nos campagnes, il est tout autour de nous dans les codes des solutions. C'était Trio sur RCF et nous on continue notre déambulation au Salon de l'Agriculture à Paris.
L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, il est donc temps d'ouvrir le dossier de l'écho des solutions de cette semaine. Vous l'avez compris, nous allons déambuler dans les allées du salon. Et là, je me suis arrêté sur le stand des chambres d'agriculture. Bah, il faut dire qu'en fait, on y était déjà avec son président national il y a quelques instants. Et on m'a présenté deux lauréats de Agreen Startup, qui est un prix qui est remis chaque année sur le salon de l'agriculture. Deux lauréats qui répondent à deux questions de la crise actuelle. La question de la norme, et c'est nos invités qui vont ouvrir nos échanges et ce dossier, qui vont nous en parler avec leur solution qui s'appelle Gaston. On parlera aussi de biosolutions et de comment on peut accompagner les agriculteurs aussi dans un label qui soit bio, qui soit équitable en guise de revenu, et puis aussi comment on peut les accompagner vers cette transition. Bref, un dossier très large qu'on va faire en déambulant au travers les allées. Et je suis avec mes deux premiers invités, les fondateurs, ils sont trois, de Gaston. Alors d'abord, j'ai envie de vous poser la question, pourquoi Gaston? C'est une vache, c'est une référence à Gaston Lagaffe, c'est quoi?
Alors Gaston, l'idée c'est d'imager en fait une personne qui serait là pour aider les agriculteurs. En fait, Gaston, c'est une personne qui est née et qui a grandi à la ferme, qui a fait des grandes études.
Mais comment on en arrive à Gaston ?
Alors, en fait, l'idée, c'était d'avoir...
Vous aviez bu ? Vous étiez en fin de soirée
Pas du tout, pas du tout. L'idée, en fait, c'est d'avoir un prénom qui parle à tout le monde. Nous, on s'adresse au territoire agricole français, donc avoir un prénom plutôt à consonance traditionnelle des campagnes. Mmh. Et donc Gaston nous est venu comme ça.
Parce que quand j'ai cherché sur le salon de l'agriculture Gaston Agriculture, on tombe pas tout de suite sur vous, mais on tombe sur une vache. Il y a une vache qui s'appelle Gaston, qui a dû être une des vaches hérégies du salon de l'agriculture. Donc je me suis dit qu'il y avait peut-être, il y a peut-être ça. On va parler de Gaston. Gaston, c'est une solution. Vous venez donc d'être lauréat du prix Agreen Startup des chambres d'agriculture avec Syndev et leur SyndApps, dont on parlera tout de suite après. Gaston, c'est une solution qui permet aux agriculteurs de gagner du temps sur leurs solutions administratives. Comment j'ai été étonné que ça n'existe pas auparavant.
En fait, bon, déjà, nous, on s'attaque surtout à un point parmi le tout administratif, c'est la question du juridique.
Ouais.
La question du juridique, elle est très particulière, c'est-à-dire que les contrats, les questions juridiques, les règles de droit qu'on va retrouver pour le monde agricole sont spécifiques au monde agricole. Y a des acteurs traditionnels sur ces questions-là. Le problème, c'est qu'il y a de moins en moins d'expertise. On trouve de moins en moins d'expertise.
Pourquoi ? Parce qu'il y a de moins en moins de juristes formés sur la question du droit rural.
Parce qu'il y a de moins en moins de juristes qui sont formés en droit rural. Et puis, il va y avoir des territoires qui sont un peu moins couverts. Et nous, en fait, le pari, c'est de donner accès à la question du juridique, à la question des contrats et toutes ces choses-là, de manière plus simple, par de l'information et par un ensemble de services.
Alors, quelles sont aujourd'hui les problématiques auxquelles les agriculteurs sont confrontés, j'ai envie de dire, de manière régulière ? Parce qu'il peut y avoir des questions de transmission, il peut y avoir des questions d'installation. C'est pas la majorité des agriculteurs. Au quotidien, c'est quoi les soucis auxquels les agriculteurs doivent faire face ?
On a pas mal de problématiques en fait qui sont assez récurrentes. Aujourd'hui, tout ce qui va toucher aux haies, aux boruraux, les problématiques de haies, par exemple, c'est quelque chose d'à la mode avec les problématiques environnementales. Vous allez aussi avoir des problématiques.
Qu'est-ce que vous voulez dire des problématiques de haies ? C'est-à-dire des problématiques de droit d'empiétement d'un terrain d'un agriculteur sur un autre agriculteur ?
Alors ça va être d'autres problématiques encore. Ça va être les problématiques de voisinage qui sont aussi des problématiques que les agriculteurs rencontrent beaucoup. On entend pas mal parler d'ailleurs des problématiques de voisins d'agriculteurs ou d'agriculteurs entre eux qui vont avoir des conflits. Les problématiques de haies, ça va être plutôt sur tout ce qui va toucher à la réglementation environnementale. Aujourd'hui, au niveau européen, sans rentrer dans les détails, on met en avant les plantations de haies sur les exploitations agricoles, sauf que ça engendre des problématiques juridiques. Ça fait partie des problèmes que peuvent rencontrer les agriculteurs. Avec ça, on a d'autres problématiques aussi quotidiennes. L'embauche de salariés agricoles, par exemple, quand on a besoin de saisonniers, ça va être récurrent, ça va revenir assez régulièrement. Ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, l'entreprise agricole est confrontée à des problématiques juridiques exceptionnelles quand on va être sur de l'installation, de la transmission, la rédaction de ses premiers baux ruraux quand on s'installe, mais également à des problématiques juridiques récurrentes. Et l'idée de Gaston, encore une fois, c'est de rendre les agriculteurs autonomes, de pouvoir leur permettre de faire par eux-mêmes.
Combien de temps passe, parce que on sait que l'agriculteur, sa principale action, son principal travail, c'est quand même d'aller cultiver la terre, vous leur apportez une solution de gain de temps finalement en allant un petit peu plus vite. Mais est-ce qu'on sait, déjà, avant d'utiliser Gaston, combien de temps un agriculteur passe dans la démarche administrative pour gérer son exploitation, c'est-à-dire le temps qu'il passe derrière un bureau et pas dans les champs ?
On a des moyennes, ça va varier selon les secteurs d'activité. Ce qu'on sait, c'est qu'on est entre une à deux journées de la semaine qui va être consacrée à l'administratif.
Donc deux jours, une journée et demie par semaine à passer sur les questions administratives.
Exactement.
Et votre promesse, c'est de réduire ça à combien ?
Notre promesse, c'est déjà d'arriver à faire en sorte, que la personne puisse, l'agriculteur puisse trouver l'information, puisse déjà régler ses problématiques. Ensuite, demain, l'objectif, c'est d'avoir un outil qui soit beaucoup plus global sur l'administratif. Et effectivement, ça serait d'arriver à faire en sorte qu'il n'ait plus qu'une demi-journée d'administratif dans la semaine.
Alors aujourd'hui, Hugo, allez-y.
Juste pour compléter, notre promesse aussi, elle est qu'on vient réduire les intermédiaires, puisque en passant par les outils de Gaston, en fait, l'agriculteur arrive à faire par lui-même. Donc, tous les intermédiaires qu'il y avait entre lui et le moment où il reçoit son contrat vont être supprimés. Et c'est grâce à ça aussi qu'on arrive à faire gagner du temps.
Donc une plateforme finalement, ce qu'on appelle en général un guichet unique, une plateforme qui permet à l'agriculteur d'entrer dans la démarche administrative pour ensuite libérer du temps pour aller gérer et s'occuper de son champ et de ses terres ou de ses bêtes. Elia, dans tout ça ?
Alors, l'intelligence artificielle, c'est bien entendu une des problématiques sur lesquelles on travaille. Aujourd'hui, on réfléchit et on travaille au développement futur de ces outils d'intelligence artificielle et notamment à les intégrer à l'intérieur de nos propres outils. Il faut quand même rester prudent aujourd'hui avec ce qui est proposé. Oui, ChatGPT, pour n'en citer qu'un seul, est très fort. Cependant, sur le droit rural en France, il faut savoir que tout le droit qui entoure l'agriculture est un droit assez complexe, où les sources fiables sont assez rares sur Internet. Et il faut savoir que ChatGPT se source sur tout ce qu'il va trouver sur Internet. Et parfois, pour ne pas dire assez souvent, les réponses qu'il va donner aujourd'hui encore sont assez faiblardes en ce qui concerne le droit rural. C'est sûrement voué à s'améliorer. On sait aujourd'hui que l'intelligence artificielle s'améliore de jour en jour, mais aujourd'hui il faut rester prudent.
Alors, question un peu bateau, ça coûte combien, Gaston, pour un agriculteur? Est-ce que c'est fait pour tous les agriculteurs, de la toute petite exploitation de maraîchage au gros laitier ou au gros céréalier de la Beauce?
Oui, tout à fait, on s'adresse vraiment à tous les agriculteurs, puisqu'on est sur des prix qui sont assez bas par rapport au type de service juridique qu'on propose, c'est-à-dire notamment sur le générateur de contrat, donc qui permet de créer ses propres baux, de créer ses statuts de société. On va être sur des tarifs qui sont inférieurs à 100 €. Ensuite, sur la mise en relation avec des avocats, donc la possibilité pour l'agriculteur qui est confronté à des problématiques particulières, complexes, qui a besoin de rédiger des contrats plus lourds, qui ont besoin d'être plus sécurisants, nous on le met en relation avec un avocat, et cette mise en relation elle est gratuite.
Et après, bien évidemment, vous faites l'apporteur d'affaires pour l'avocat, donc il y a forcément un business model derrière tout ça, mais l'important c'est que tout agriculteur puisse bénéficier de Gaston. Merci Hugo, merci Erwan d'avoir ouvert ce dossier. Nous, on va continuer notre déambulation, on va aller retrouver Damien Cariou pour évoquer Syndev, un autre lauréat de la Green Startup, pour évoquer Syndev, qui est une société qui accompagne les agriculteurs vers les biosolutions. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Bon courage pour votre entreprise et on lui espère beaucoup de succès.
Merci.
RCF, Patrick Longchamp.
Voilà, on continue notre déambulation au Salon de l'Agriculture. Je suis avec Damien Cariou, le fondateur de Syndev. Bonjour Damien.
Bonjour à vous.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, après avoir parlé des normes administratives, on va évoquer une autre question qui est souvent sur le devant de la scène quand on parle d'agriculture. C'est le rapport aux phytosanitaires, c'est le rapport aux pesticides. Aujourd'hui, il existe des biosolutions. Les biosolutions, vous allez peut-être nous expliquer d'ailleurs de quoi elles retournent. Mais vous, ce que dans votre entreprise, vous avez décidé d'accompagner les agriculteurs pour savoir bien les utiliser, quand les utiliser et les doter d'outils performants pour trouver le juste équilibre pour permettre à la fois une rentabilité, une productivité de la terre et en même temps un revenu décent pour les agriculteurs. Syndev, donc l'idée c'est d'accompagner les biosolutions et enfin d'accompagner les acteurs de l'agriculture à bien utiliser les biosolutions. Qu'est-ce que c'est qu'une biosolution aujourd'hui? C'est vraiment une alternative à ces pesticides comme le glyphosate dont on parle toujours?
Oui, une biosolution, c'est un ensemble de produits réglementaires au niveau français, puisque la France est très bien normée, qui regroupe à la fois les produits de biocontrôle qui vont agir sur la plante par rapport à un pathogène, un insecte, ou des produits de biostimulation qui vont, eux, agir sur la croissance et la santé et la vigueur de la plante. L'ensemble de ces solutions, elles émergent depuis plus de 20 ans. On connaît tous les coccinelles qui font partie des biosolutions pour gérer les pucerons. Il y en a d'autres qui sont plus performantes aujourd'hui. Les biosolutions sont des produits qui reprennent des modes d'action naturels pour aider la plante à mieux résister aux aléas climatiques et aux pathogènes.
Alors, est-ce qu'aujourd'hui, elles ont exactement la même efficacité que les pesticides? Et on reviendra après sur la question du coût.
Malheureusement, non. Et c'est tout le problème. C'est qu'aujourd'hui, l'agriculture est dans un mode où il cherche à résoudre un problème, qui peut être insecte, désherbage ou maladie fongique, par juste un produit, qui était pendant longtemps des produits phyto. On arrive dans un changement de paradigme global au niveau de l'agriculture, où l'agriculteur doit maintenant, pour répondre à un problème, identifier plusieurs leviers agronomiques dont font partie les biosolutions. Et donc c'est beaucoup plus complexe, mais c'est aussi d'un autre côté moins impactant pour l'environnement, la santé humaine, l'eau et les insectes et la biodiversité.
Alors justement, pourquoi les agriculteurs n'y vont pas sur ces biosolutions, ou au contraire vous voyez le marché se développer pour répondre aussi à une normalisation européenne, même si elle a été peut-être un peu amoindrie ces derniers jours, mais une normalisation européenne qui finalement leur impose de moins utiliser de pesticides?
Quand on a créé la société Syndev, il y a un peu plus d'un an, on a été à la rencontre des agriculteurs et des conseillers techniques pour identifier justement les freins à l'usage de ces biosolutions et comprendre pourquoi ils n'y allaient pas. L'étude que l'on a faite ressort plusieurs éléments. Le premier, c'est qu'ils n'ont pas accès, en fait, à l'offre et à sa globalité.
Quand vous dites accès, ça veut dire qu'ils savent pas que ça existe ?
Ils ne savent pas que ça existe ou ce qu'ils ont testé ne fonctionne pas. Le prix est quelque chose qu'on pourra voir après. Mais en tout cas, le premier frein aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas accès à l'information et ils recherchent cette information et de la connaissance technique derrière un produit commercial. La deuxième chose, c'est que c'est souvent compliqué à appliquer. C'est des produits qui sont interdépendants de l'environnement, de la plante et même du matériel de l'agriculteur. Donc c'est extrêmement compliqué. Donc c'est le deuxième frein principal qui a été identifié. Le prix venant en troisième. Les biosolutions sont pour certaines un peu plus chères que les produits conventionnels, mais c'est surtout qu'elles nécessitent une réflexion globale de leur utilisation. On a identifié qu'aujourd'hui, ces produits, dans plus de 50% des cas, c'est un échec parce qu'elles sont mal appliquées et qu'il y a un manque de connaissances. Donc je dirais que le premier levier à mettre en œuvre pour favoriser leur usage, c'est de former les agriculteurs et donner de la connaissance.
Comment on peut, grâce aux biosolutions, quand même arriver à dégager un revenu correct pour l'agriculteur en produisant, non pas en masse, mais en quantité suffisante, des produits de qualité ?
Alors, les biosolutions, je le redis, ce n'est pas efficace seul. Mais quand on travaille dans un itinéraire et qu'on les combine, on arrive à avoir une performance équivalente. Il y a déjà des producteurs qui, au travers des réseaux défis ou au travers de labels environnementaux, ou de labels commerciaux qui portent une agriculture nouvelle. J'aime citer souvent le label Zéro Résidus de Pesticides ou le label Demain la Terre qui ont vraiment engagé cette transition depuis des années. Ils arrivent à produire une quantité d'alimentation saine, sécurisée pour le consommateur, à un prix qui est raisonnable. Donc ça coûte plus cher, mais ça reste raisonnable si on met les moyens en face pour y arriver.
Aujourd'hui, c'est combien d'agriculteurs en pourcentage à peu près qui sont dans une démarche de biosolutions en France ?
85% des agriculteurs utilisent des produits de biocontrôle aujourd'hui, dans différentes cultures et à différents niveaux. Je dirais que dans notre étude, il y a plus de 10 000 agriculteurs qui sont engagés fortement dans une transition agricole, et c'est surtout dans les filières vignes, arbaux et surtout cultures légumières.
Plutôt jeune génération ou toute génération confondue ? Est-ce que, j'en dirais, la génération plus âgée, celle qui est sur le départ peut-être, là, sur la transmission, a plus de mal à y aller ? C'est une question très ouverte, mais parce que parfois on a ces a priori.
C'est pas si simple de répondre à cette question parce que ça dépend du profil de l'agriculteur. Il y a plein de types d'agriculteurs. J'ai rencontré dans mon expérience passée des agriculteurs qui avaient 50 ans et qui pensaient à leur génération future et qui voulaient déjà engager la transition pour leurs enfants. Et vous avez des jeunes qui arrivent et qui changent complètement dans l'exploitation la vision qu'a pu avoir leur papa.
Ce qui peut parfois peut-être aussi créer des tensions. Alors, pour accompagner justement ce changement, vous avez créé une application qui permet justement de simplifier. C'est pour ça que vous êtes d'ailleurs le lauréat de la Green Startup organisée par les chambres d'agriculture nationales. Et cette application, elle permet de simplifier ou du moins d'orienter la prise de décision. Parce que vous disiez au début de notre entretien toute la complexité d'associer plusieurs biosolutions pour arriver à un maximum d'efficacité.
Oui, l'agriculteur, il est multitâche chez lui, donc il faut lui faire gagner du temps. Aujourd'hui, on le fait gagner du temps dans la gestion administrative et juridique.
On l'a vu avec Gaston il y a quelques instants.
On lui fait gagner du temps dans la visibilité de la météo, dans son achat de matériel, dans l'achat de ses intrants. Mais pour le conseil agronomique, on reste sur des façons de fonctionner assez ancestrales. Alors, ancestrales, c'est pas péjoratif.
On regarde la lune si elle est rousse.
Mais je dirais qu'aujourd'hui, on doit lui faire gagner du temps dans l'analyse d'un contexte agronomique et lui proposer les solutions qui peuvent pas peut-être venir à elle naturellement. C'est l'objectif de Synapse. Synapse est un outil qui a pour ambition d'aider le conseiller, parce que le conseiller fait partie de l'équation, et l'agriculteur dans le choix du bon produit au bon moment. Je le disais tout à l'heure, les produits naturels sont plus complexes, donc il y a plus d'échecs. Donc il faut vraiment accompagner l'agriculteur à identifier tous les paramètres agronomiques, et notre outil est capable d'en analyser 70, qui vont lui permettre de prendre la bonne décision. Et économiquement, ça va se ressentir parce que un produit qui est bien utilisé, c'est un produit qui fait gagner de l'argent, même s'il coûte cher.
C'est ça. Merci beaucoup Damien Cariou d'avoir participé à cet échange autour de cette déambulation au sein du Salon de l'Agriculture. Votre espérance pour ce monde agricole, justement, pour terminer ?
Bah écoutez, je suis plutôt d'un tempérament optimiste. Donc même si l'agriculture vit des crises multiples, et elle en vit une aujourd'hui, j'ai beaucoup d'espoir dans l'agriculture parce qu'elle est la base de tout. Même si elle représente que 10% de notre PIB, elle reste essentielle à notre pays et à l'Europe. Je crois beaucoup à l'agriculture de demain, c'est pour ça que je la porte. Et ce partenariat avec les chambres d'agriculture qui nous est offert au travers de ce concours Green Startup me fait penser qu'on est sur la bonne route, parce que il faut mettre tout le monde dans le sens de marche pour la transition agricole, et les chambres agriculture travaillent déjà dessus.
Mmh. Eh ben on va continuer sur ce rapport aux revenus, à la durabilité. On va continuer notre déambulation et on va aller évoquer avec notre nouvel invité un nouvel axe, un nouveau regard sur justement le rapport au bio et à l'équitabilité pour la question des revenus des agriculteurs.
Donc votre exploitation laitière ou allaitante ?
Donc une exploitation bio, on est bien d'accord.
L'écho des solutions. Patrick Longchamp.
Voilà, et on continue notre petit tour du Salon de l'Agriculture et je suis avec vous, Christelle Garnier. Bonjour Christelle.
Bonjour.
Alors, je suis sûr que les auditeurs devaient se dire, mais c'est très bien tout ce que vous nous faites, Patrick, mais on n'a pas entendu beaucoup parler les agriculteurs. Alors, vous êtes agricultrice, vous êtes dans l'Yonne, vous faites de la céréale, vous faites aussi un petit peu de volaille et tout ça en bio. Et c'est ce qui nous intéresse parce qu'aujourd'hui, quand on parle du bio, on pense toujours au bio comme quelque chose de cher. On pense toujours au bio uniquement par les réseaux des magasins bio, les Biocoop et autres, dont vous êtes d'ailleurs aussi administratrice. Et pourtant, le bio aujourd'hui a des lettres de noblesse, elle a des lettres de noblesse à défendre. La preuve, vous êtes aussi à la tête, ou du moins dans une coopérative céréalière 100% bio qui existe depuis 40 ans. Donc en fait, le bio a toujours existé, existera encore, mais ça doit aller plus loin.
Bon, en fait, le bio, c'est effectivement une philosophie. Enfin, c'est une philosophie pour le vivant, pour la biodiversité, pour tout ce qui est la qualité de l'eau, la qualité de l'air. Enfin, je pense que l'agriculture biologique défend tout ça. Et aujourd'hui, on force est de constater qu'en fait, on n'est pas soutenu. L'agriculture biologique n'est pas soutenue pour tous les services environnementaux qu'elle porte. Et
Non, allez-y, repoussez juste un petit peu votre micro.
Voilà. Bon. Oui, donc je disais, l'agriculture biologique aujourd'hui n'est pas soutenue pour tous les services environnementaux qu'elle porte, parce qu'en fait, je suis une productrice d'eau avant tout. Avant de produire des céréales, je produis de l'eau, parce que toute l'eau, avant d'arriver au robinet, elle passe par nos champs, elle passe par les champs de tous les agriculteurs, pas seulement les paysans bio. Eh bien moi, je suis fière de ne pas... de ne pas coûter à la collectivité pour la dépolluer. Mmh. Pour autant, ça coûte des milliards à la société, quoi.
Alors, on est là aussi pour parler de... Vous êtes vice-présidente aussi du label bio-équitable, parce qu'aujourd'hui, qui dit agriculture, et c'est un des sujets aujourd'hui de revendication des agriculteurs, c'est la question du revenu. Et pour cela, il faut peut-être un peu plus de solidarité peut-être entre les agriculteurs, et le label bio-équitable, c'est ce qu'il propose, un peu comme aujourd'hui le font des marques comme Max Havelaar qui sont plus connues à l'international, mais le commerce équitable, il existe aussi en France et dans la filière bio.
Donc effectivement, le label bio-équitable en France a bientôt 3 ans, 4 ans même, il est né pendant le Covid. Et en fait, le principe du commerce équitable, c'est effectivement une contractualisation sur plusieurs années et surtout un prix calculé à partir des coûts de production. Et ça, c'est très important. Et pour qu'un produit soit labellisé bioéquitable en France, ce n'est pas seulement les paysans qui sont labellisés, mais c'est aussi le transformateur, le porteur de marque. Donc toute la chaîne partage la valeur.
C'est un peu la blockchain, c'est un peu une blockchain, c'est-à-dire que s'il y en a un qui est défaillant, c'est toute la chaîne qui est défaillante.
Exactement. Pour que le label soit apposé sur le produit, il faut que toute la chaîne soit labellisée. Et c'est ça qui est fort, et en fait ça devrait être la base du commerce.
Alors Christelle, donc vous êtes vice-présidente du label bio-équitable en France. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire, vous en tant qu'agricultrice, que même si vous êtes solidaire avec les agriculteurs qui ont des revenus faibles, qui ont des problèmes de revenus liés à énormément de facteurs, qu'aujourd'hui vous êtes une agricultrice qui avait des revenus suffisants pour déployer votre activité et pour vivre ?
Alors la problématique, c'est que si tous mes contrats étaient labellisés bioéquitable en France, je pense que je serais une agricultrice sereine, heureuse, etc. Ce n'est pas le cas en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est en train de déployer le label, donc on est en train de mettre en place des contrats, des chaînes labellisées, mais effectivement qu'une chaîne labellisée, comme le prix est calculé à partir des coûts de production et ensuite donc y a les paysans ont leurs coûts de production, voilà, ça donne un prix, et dans les coûts de production il faut savoir qu'on a aussi le salaire, la rémunération du producteur, on a aussi la problématique de ces aléas climatiques, enfin voilà, on a tout est pris en compte dedans. Et au fur et à mesure, le transformateur, donc moi par exemple je fais du blé, donc il va falloir un transformateur pour faire la farine, et puis après peut-être un transformateur pour faire le gâteau, et puis après le porteur de marque, donc par exemple Biocoop, j'ai des gâteaux avec mes céréales qui sont vendus chez Biocoop. Donc toute la chaîne est labellisée, ça veut dire que tout le monde y gagne, y compris le producteur. Donc en fait, c'est la solution, je veux dire.
Donc en fait, il faudrait presque imaginer cette labellisation, ce système de labellisation bioéquitable à l'ensemble de la chaîne de valeur de l'agriculture pour tous les produits, quels qu'ils soient.
C'est exactement ça en fait.
Alors,
c'est
le bon
sens du commerce. Mais en fait, on voit aujourd'hui sur le salon qu'en fait, le ministre de l'Agriculture parle de prix plancher.
Alors justement, je vais vous poser la question, les prix planchers.
Il n'a rien inventé, ça existe déjà, sauf que ce n'est pas suffisamment soutenu.
Donc finalement, c'est plutôt une bonne chose de mettre en avant cette notion de prix plancher pour commencer et pour aller plus loin après, peut-être sur d'autres étapes.
Alors, peut-être c'est une bonne idée, tout dépend de la définition du prix plancher, du prix plancher, comment il va être défini, comment il va être calculé. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un modèle d'agriculture, il y en a plein.
Ben
il y a des filières, enfin, je veux dire, on ne calcule pas les coûts de production.
Et puis il y a une dynamique européenne, parce que qui dit prix plancher, il faut pouvoir aussi exporter, même si on est plutôt favorable au circuit court. L'exportation de l'agriculture en France est une réalité, il faut pouvoir aussi être compétitif sur l'ensemble du marché européen. Donc déjà, peut-être aussi s'entendre au niveau de l'agriculture européenne. Sur un prix plancher européen.
Exactement, donc je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge. C'est pour ça que si je reviens sur le label bioéquitable en France, bah là on parle que de produits français, on parle que de producteurs français, on parle que de produits labellisés en France. Bio, équitable, en France, tout est dit en fait, et je pense que c'est important de pouvoir soutenir ce genre de modèle.
Merci beaucoup Christelle Garnier.
Merci beaucoup.
RCF, l'écho des solutions.
Voilà, et on continue notre déambulation. On a parlé de revenus des agriculteurs. Les revenus complémentaires, ça peut être intéressant parfois sur des sols agricoles, sur des installations. On peut gérer peut-être de nouveaux revenus. Et pour cela, il y a un fonds qui existe aujourd'hui, depuis quelques années déjà, qui s'appelle Agri Impact. Son directeur, c'est Benoît Viron. Il est avec nous. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Merci.
Bonjour Patrick.
Merci beaucoup d'être avec nous. D'abord, Agri Impact, c'est quoi ? C'est un fonds d'investissement qui accompagne les agriculteurs vers de nouveaux revenus, vers de nouveaux projets entrepreneuriaux qui ne sont pas forcément liés à l'agriculture ?
Oui, tout à fait. Alors, Agri Impact est un fonds d'investissement qui a été lancé il y a déjà 2 ans, donc effectivement pour répondre à la problématique de revenus de l'agriculteur. Nous avons effectivement lancé ce fonds avec la Fondation Avril, qui est à l'initiative de ce projet. Philippe Thiusbord, qui était l'ancien directeur général du groupe à la Fondation Avril, était le président. Et il souhaitait effectivement offrir une solution pour ces agriculteurs en manque de ressources financières pour lancer leur projet de transformation et de diversification. Donc ainsi est né Agri Impact. Agri Impact, c'est aujourd'hui 13 souscripteurs qui nous ont fait confiance et qui mettent à disposition un fonds de 30 millions d'euros et qui permet d'offrir à des agriculteurs des moyens financiers sur des tickets autour de 500 à 3 millions d'euros pour les accompagner sur leurs gros projets.
Très concrètement, Benoît Viron, quels sont les projets qui sont accompagnés par...
Aujourd'hui, on a déjà une expérience avec 8 projets réalisés. C'est des projets autour de la méthanisation. On a des agriculteurs, bien souvent des collectifs d'agriculteurs qui lancent des projets en France de méthanisation.
C'est uniquement de la méthanisation ou ça peut aller sur d'autres projets ?
On n'a pas seulement réalisé des dossiers en méthanisation. Nous avons également réalisé un dossier avec des fermes d'insectes, avec le dossier inverse. Nous avons réalisé également un projet autour d'une malterie régionale du côté de Toulouse. Nous avons accompagné des porteurs de projets.
Alors quand on parle d'agri-impact, il y a le mot impact. Vous voulez impacter quoi Et comment vous mesurez cet impact de ces investissements? Il n'y a pas juste le retour sur investissement qui compte, il y a aussi certainement un impact de sociétal, environnemental, responsable et durable.
Tout à fait, c'est ça. Donc Agri Impact, c'est facile. C'est Agri, ça s'adresse aux agri. C'est le seul fonds qui est dédié aux agriculteurs. Et c'est également la signification des impacts, où effectivement nos souscripteurs ils recherchent effectivement un retour sur investissement. Mais le vrai enjeu pour eux, c'est qu'on puisse démontrer qu'il y a de l'impact pour les agriculteurs sur trois volets. Mmh. Le revenu de l'agriculteur, des indirects, l'emploi au niveau territorial et au niveau des transitions. En fait, c'est des agriculteurs qui signent une charte avec nous, qui s'engagent, quel que soit en fait un petit peu leur système d'exploitation, ils s'engagent à s'améliorer sur leurs pratiques agro-environnementales. Mmh. On avait créé un petit groupe de travail avec un peu des experts nationaux sur l'ensemble des filières, en disant quelles sont les pratiques intéressantes pour les agriculteurs sur lesquelles elles doivent tendre. Mmh. Et donc, en fait, on a par exemple un volet d'agroforesterie, on a un volet de non-labour, il y a différents thèmes qui sont abordés. On essaye de regarder, de mesurer à date de l'entrée de notre intervention, comment se situe un petit peu l'exploitation et on travaille en une perspective.
Audit au point de départ,
et même tous les ans, en fait, on va réfléchir un petit peu avec eux dans comment ils évoluent, et puis on va essayer de réfléchir avec eux pour leur amener en fait des partenaires pour effectivement qui travaillent ces solutions. Voilà.
Merci beaucoup Benoît Viron. Agri Impact, c'est ce fonds d'aide aux agriculteurs pour leur aider à trouver de nouveaux biais pour transformer leurs exploitations et acquérir de nouveaux revenus. Merci Benoît Viron.
Je vous en prie, merci beaucoup.
7 minutes pour changer le monde. L'écho des solutions.
Voilà, on termine cette émission, cette déambulation au cœur du Salon de l'agriculture. Et nos 7 minutes pour changer le monde sont consacrées à une association qui tisse du lien social dans les territoires. C'est une association qui est née pendant la période de Covid. Ça s'appelle Les Agriculteurs ont du cœur. Et autour de la table, il y a des gens qui ont fondé cette association. Jean-Paul Hébrard, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes l'un des cofondateurs. À vos côtés, Gabrielle Dufour, vice-présidente de l'association. Bonjour, Gabrielle.
Tout à fait, bonjour.
Et alors, vous êtes 8, je crois, avoir cofondé cette association, Les Agriculteurs ont du cœur. L'idée, à la base, c'était quoi? C'était de pouvoir subvenir à des besoins alimentaires et on s'est dit finalement nos agriculteurs ils ont un peu d'aliments dans leur cave, dans leur grenier, dans leur cellier et on va les mettre à disposition de ceux qui en ont pas ou moins, c'est ça Jean-Pierre?
Ce qu'on a constaté, c'est que il y a plein d'initiatives d'agriculteurs. Par exemple, une ferme qui accueille des enfants autistes. Par exemple, une marque de tracteurs qui donne de l'argent à des associations parce qu'il y a des véritables préoccupations. Mais nous, ce qu'on a eu envie, en fait, c'est d'être capable de pouvoir créer une association de façon à stimuler justement ces belles actions faites par le monde agricole vis-à-vis du reste de la société. Et puis aussi, essayer de les médiatiser. Voilà, notre métier à nous, c'est vraiment ça. Stimuler et médiatiser ces actions.
Alors, c'est quoi ces actions? Parlons-en un petit peu. Elles consistent en quoi? Essentiellement à distribuer de la nourriture?
Alors non, nous, on ne distribue pas. Par exemple, dans le cadre du Salon de l'agriculture, ce qu'on a mis en place, c'est une opération qui s'appelle l'incroyable soirée des agriculteurs en du cœur, où on va voir différents acteurs du monde de l'agriculture et de l'agroalimentaire qu'on va réunir donc ici dans le Salon de l'agriculture, et puis on va avoir différents acteurs qui vont donner par exemple le Bon Duel qui va donner des petits pois, et notre partenaire dans ce cas-là c'est la Fédération Nationale des Banques Alimentaires qui eux vont se charger
de la redistribuer
directement aux personnes. C'est leur métier, nous on ne sait pas faire.
Gabriel, comment vous êtes arrivé dans le projet? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était une visio-apéro pendant le Covid avec quelques amis. Vous vous êtes dit, on peut pas rester sans rien faire. Comment ça s'est passé?
Alors, le Covid a créé un vide. Notamment, le Salon de l'agriculture 2020 a été annulé. Et je crois qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui est né à ce moment-là. Et nous, effectivement, on était un groupe. Alors, c'est venu de Jean-Paul et Christian Houillet, notre président, qui ont réfléchi. Alors, il y avait un certain nombre de stagiaires qui étaient désœuvrés. Vous savez que le Salon de l'agriculture, il fonctionne grâce à des stagiaires d'écoles d'ingénieurs agro. Donc, des stagiaires désœuvrés d'un côté, puis on voyait de l'autre côté, je ne sais pas si vous vous rappelez aussi, il y avait des queues de jeunes étudiants aux banques alimentaires qui avaient du mal à se nourrir. Enfin, c'était une période qui était tendue. On voyait, on savait que les banques alimentaires avaient des besoins qui se sont accrus à l'époque. Donc tout ça nous a beaucoup touchés tous. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'on s'est demandé, mais qu'est-ce qu'on peut faire finalement? Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on est un groupe, on est huit personnes avec, on travaille dans le monde agricole, on a des réseaux, on a beaucoup d'idées.
C'est une association qui aurait pu s'arrêter à la fin du Covid. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de continuer?
Et justement pas, oui. Bah, ce qui nous a donné envie de continuer, c'est la réussite de la première action. En fait, la première action a consisté alors à regrouper des stagiaires, à payer, à financer des stagiaires par des entreprises. Donc, on a déjà trouvé des entreprises partenaires. Et ces stagiaires ont dû aller faire du phoning auprès d'agriculteurs ou d'entreprises. Et on a récupéré comme ça 100 tonnes de nourriture au bout de 15 jours, je crois, Jean-Paul. Et ensuite, on a fait une soirée qui a consisté, même si on n'avait pas le droit de se réunir, mais bon, on l'a fait presque
on a fait une prescription.
Soirée où on a mis en avant, c'est ça notre force, c'est que c'est très festif. Hein, les agriculteurs ont du cœur, on donne une image positive, festive, sympa. Donc, on a donné envie un peu, je crois qu'on s'est tous donné envie de continuer, en fait.
Jean-Paul, ça se limite aujourd'hui uniquement à l'alimentaire ou vous allez sur d'autres terrains maintenant?
Non, au contraire, c'est bien plus large. Je vais prendre un exemple. Il y a une marque de tracteurs donc, qui s'appelle Landini. Ils ont fait un tracteur siglé Les agriculteurs ont du cœur et ils se sont engagés, chaque fois qu'ils vendaient un tracteur, à donner 200 euros au Blues Rose, qui est une association qui travaille avec pour les enfants qui sont hospitalisés.
Alors, ça, ce qui est intéressant, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que le monde agricole, évidemment, il y a les exploitations, mais il n'y a pas que les exploitations. Il y a aussi les fabricants de matériel, il y a les fabricants de tracteurs, comme vous voulez le dire, il y a aussi les semenciers, etc. Et finalement, les agriculteurs du cœur, c'est presque aujourd'hui peut-être l'idée que vous avez, c'est de devenir une marque RSE, un label RSE pour le monde de l'agriculture, Jean-Paul?
Non, surtout pas.
Surtout
on a envie de garder cette spontanéité, d'avoir de l'énergie, d'entraîner un certain nombre d'acteurs, de fédérer justement.
Mais n'empêche qu'un de vos leviers de communication, c'est de dire si vous travaillez avec les agriculteurs du cœur, vous allez mettre une petite pierre à votre politique RSE.
Alors, ce qu'on essaye, c'est de développer la politique RSE, de sensibiliser justement en leur disant, mais attendez, vous allez prendre des jeunes demain dans vos entreprises. Vous savez que les jeunes sont beaucoup plus sensibles
à
ces mots de solidarité, d'humanisme. Donc, engagez-vous, venez à nos côtés. Nous, on va vous aider, on va vous apporter l'ingénierie pour justement être capable de mettre en correspondance une association et une entreprise qui a envie de faire des choses. Mais on ne va pas aller pour autant dans une forme de label. Mmh. Au contraire, de maximum de personnes qui peuvent travailler avec nous.
Donc, sensibiliser pour mettre en action, en fait.
Stimuler
pour mettre en action.
Voilà. Et ce qu'on fait en plus, c'est qu'on médiatise. Voilà.
Et ça,
et
c'est
on
plus
est
important.
Justement à la demande de maximum d'entreprises qui pourraient nous rejoindre ou aussi de particuliers.
Gabriel, vous allez où maintenant, les agriculteurs ont du cœur? Ça va où? C'est quoi les projets de développement prochains? Vous avez envie d'aller vers quoi?
Alors, les prochains projets, on a déjà des projets en cours qu'on va continuer à mener, des projets notamment, par exemple, les jardins de campagne solidaire qui sont des terrains que les agriculteurs laissent à disposition d'un groupe de citoyens ou d'une association et dans lesquels même ils participent parfois. Donc ce sont des jardins des potagers, des lieux de rencontres, de liens qui sont donnés grâce aux agriculteurs. Donc ça c'est un projet qui fonctionne très bien. On a eu deux lieux qui ont très bien fonctionné et puis on va essayer de développer, d'en avoir 10 à présenter aux prochaines journées nationales de l'agriculture. Et puis il y a un autre projet par exemple avec les femmes donc où on fait des rencontres de femmes, entre des femmes parfois en difficulté ou en tout cas qui souhaitent changer de cadre de vie, et puis des agricultrices, et puis en espérant susciter des vocations chez ces femmes.
Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir présenté Les agriculteurs ont du cœur. L'écho des solutions de cette semaine se termine au cœur du salon de l'agriculture. On se retrouve la semaine prochaine. On sera le lendemain de la journée des droits des femmes et je vous propose un visage d'entrepreneuse avec Marika Frenette. Elle a une double culture canadienne et française. Elle travaille sur des questions environnementales à Nantes. On verra avec elle quel est son parcours, quelles sont ses ambitions d'entreprise et d'entrepreneuse. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle fin de week-end à l'écoute des programmes de RCF. À très bientôt, au revoir.